Mais c'est pour cette raison-là que ce matin, on va aller dans un genre littéraire qui est un peu différent, celui du témoignage. Et ce qu'on va essayer de comprendre, en fait, c'est comment le salut de Dieu se manifeste, ou plutôt s'est manifesté, à partir de l'expérience et le vécu personnel d'un disciple de Jésus, l'apôtre Jean. Jean a expérimenté quelque chose par rapport au salut. Et ce qu'il veut, d'une certaine manière, c'est nous faire comprendre en quoi le salut de Dieu, ça l'a changé quelque chose de pratique dans ma vie, dans mes décisions, dans mes pensées, dans mes actions. Alors, ce matin, on va voir un texte qui nous parle particulièrement de ce témoignage-là que Jean désire nous donner à propos du salut. Alors, sans plus tarder, ce matin, je vais laisser la parole à ma sœur Camille, qui va nous lire un passage dans l'Évangile de Jean au chapitre 1. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole et qui va être rendu dans l'édition de la Nouvelle Genève entre les versets 1 à 14.
Donc, c'est bien ça, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14, Nouvelle édition de Genève. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Merci beaucoup, Camille. Merci pour la lecture de ce texte qui, disons-le franchement, a donné bien des maux de tête à des théologiens pendant bien des années. Pendant les dernières décennies, beaucoup de théologiens ont lu ce passage, l'ont médité, l'ont étudié, ça leur a donné des sérieuses migraines. Pourquoi? Eh bien, notamment à cause de la terminologie qui est employée dans ce texte pour nous parler de qui est Jésus. Et dans ce texte, ce qu'on voit, c'est que Jésus nous a présenté comme la parole, la vie et la lumière incarnée de Dieu. Jésus est la parole, la vie et la lumière incarnée de Dieu. Une lumière que le monde que nous sommes, en tant qu'êtres humains, le texte nous dit que cette lumière-là, que Dieu nous a envoyée, nous avons pris la décision de ne pas la recevoir, de ne pas la connaître. Évidemment, c'est un constat, je vous dirais, qui est dramatique. Parce qu'on nous dit dans le texte que c'est grâce à cette parole, cette vie et cette lumière que ce monde dans lequel nous sommes existe. Il en est le créateur. Mais les créatures décident de rejeter celui qui les a créés. Ils décident de se rebeller, de voir de l'autre côté de la clôture si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs, plutôt que de voir, bien écoute Dieu, oui, tu as inventé le monde, tu l'as créé, tu lui as donné une vision. Ouais, ça correspond à quelque chose, mais moi ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que ce ne serait pas meilleur pour moi ou plus heureux de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette vision du monde-là? Est-ce qu'il y en a une autre qui pourrait plus me plaire, faire plus mon affaire? D'une certaine manière, on voit que le Créateur a été rejeté par ses créatures, qui n'ont pas accepté la lumière que Dieu a envoyée vers eux. Ce qu'on voit par contre également à travers le témoignage de Jean ici, c'est que devant ce sombre diagnostic, Jean témoigne d'une autre réalité. Il témoigne qu'il y a une réalité qui existe à part le rejet de la lumière de Dieu. Il en existe une autre qui est totalement différente. Et ce que le verset 12 nous dit, le verset 12 nous dit à ce sujet, c'est le passage sur lequel on va se concentrer ce matin. Le verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » On dit ici quelque chose d'assez clair. C'est que certains êtres humains ont reçu la lumière qui a été envoyée par Dieu, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas reçue. Il y a comme ici, il y a un mur ici qui sépare ceux qui ont reçu la lumière et ceux qui ne l'ont pas reçue. Évidemment, la question que vous vous posez peut-être, Miguel, comment je fais pour savoir la différence? Qu'est-ce que je fais pour savoir si je suis de cette lumière-là et si je l'ai reçue ou si je ne l'ai pas reçue? Est-ce que c'est parce que je me dis éclairé de Dieu que je le suis nécessairement? Est-ce que c'est parce que je me dis sauvé et appartenu, que j'appartiens à Dieu, que je le suis nécessairement? Eh bien, ce que nous dit le texte ici, d'une certaine manière, dans Jean 1, c'est que la lumière de Dieu, pour savoir si je suis éclairé et si je la reçois, c'est que cette lumière-là, elle provient de quelque part. Et cette lumière-là, elle produit quelque chose. Ça fait partie d'une expérience que nous vivons. C'est du pratico-pratique. Recevoir la lumière de Dieu a un impact dans ma vie. Et la première chose que dit Jean, c'est que recevoir la lumière de Dieu, recevoir sa lumière, c'est tout d'abord une chose, c'est croire en Jésus. Pour Jean, ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute que recevoir la lumière de Dieu, c'est croire en Jésus parce qu'il en a fait lui-même l'expérience. Il a vu et il a reçu lui-même personnellement la lumière de Dieu. Et ce qu'il nous dit au verset 12, c'est ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. » Qu'est-ce que le passage nous dit ici, d'un premier abord au verset 12? Eh bien, Jean nous dit ici, premièrement, que la lumière de Dieu, ce n'est pas quelque chose de trouble, ce n'est pas quelque chose de vague, ce n'est pas quelque chose qui flotte dans l'air puis auquel je dois être sensible pour être éclairé. Ce n'est pas maintenant sur le bord d'une rivière calme, en dessous d'un chêne, puis en m'assoyant, puis en lisant du Victor Hugo, que je vais être éclairé de la lumière de Dieu. Ce que j'en dis ici, c'est que la lumière de Dieu, elle est spécifique et elle est personnelle. Cette lumière-là, elle possède un nom. Cette lumière-là, ce salut-là possède une identité. Et je dois absolument, pour recevoir cette lumière-là, croire en l'identité de cette lumière, dans le nom qu'elle porte. Et ici, c'est très clair dans le verset 18, excusez-moi, dans le chapitre 1, que cette lumière-là est incarnée par Jésus. Ce que Jean dit également au verset 12, c'est que ce qui me permet, ce qui me rend possible que je reçoive cette lumière, c'est quoi? C'est un geste radical de foi. Ceux qui croient en son nom. Ce sont ceux qui croient en son nom qui ont reçu la lumière. Et je ne peux pas recevoir cette lumière de Dieu. Je ne peux pas être éclairé par elle sans faire appel au nom, à l'identité de cette lumière-là. D'une certaine manière, Jean nous dit au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Le Fils unique, qui est Jésus, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voilà pourquoi Jésus est le seul nom sur lequel on peut se confier pour recevoir la lumière de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est la personne de Dieu. Il représente son message. Ça fait partie de son être. Jésus peut me parler vraiment, il peut m'éclairer de la lumière de Dieu parce qu'il est d'une nature divine. Il est l'incarnation de la lumière que Dieu envoie. Voilà pourquoi Jésus est assez crédible pour me parler de la lumière de Dieu et m'éclairer. Imaginez pendant un instant que votre voisin vienne devant vous et que sans trop savoir pourquoi, vous donne un chèque de 100 000 $. Qu'est-ce que vous faites avec le chèque? Est-ce que vous l'encaissez? Bon, il y a des gens qui disent non, des gens qui disent oui. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Parce que je pense que mon voisin, là, je le regarde. Je regarde sa maison, je regarde son auto. Puis, il n'a pas l'air d'un gars qui gagne 100 000 par année. Fait que je me dirais probablement qu'il veut se payer ma tête. Il veut rire de moi, il veut me faire une blague. Fait que je lui donnerai pas le loisir d'aller à la banque puis de dépasser mon énergie puis mon temps en changeant un chèque que je crois en bois. Mais imaginez que ce voisin-là qui vous offre 100 000 $ porte le nom de Bill Gates ou porte le nom de Donald Trump ou Céline Dion. Est-ce que vous allez encaisser le chèque? Ah, il y a des gens qui disent non. Moi, personnellement, je vous dirais, oui, je cours à la banque le changer. Je cours à la banque. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je change ce chèque-là, puis tout à l'heure, je ne le change pas? À cause du nom qui est dessus. Je crois que parce que ce nom, il est capable de me... Vraiment, il est assez fiable, puis je crois que la personne qui me le donne a les reins assez solides pour payer ce montant-là à mon nom. Voyez-vous ici comment le nom d'une personne peut influencer ce que l'on croit dans la vie? D'une certaine manière, ce qu'on voit ici, c'est que le nom de Jésus, ce n'est pas un chèque en bois qu'il nous promet. Il nous dit que celui qui croit en mon nom, eh bien, il fait non seulement être éclairé par Dieu de ma lumière, mais il reçoit cette lumière-là, et c'est ce qui fait qu'il peut être sauvé. Il me reçoit en mon nom. Il prend ce que je dis, il prend ce que je fais et ce que je lui indique pour quelque chose de fiable. Il y croit par la foi. Vous, personnellement, si je vous demandais, c'est quoi le nom qui vous inspire le plus dans la vie? C'est quoi le nom qui vous tire vers le haut, la personne qui illumine votre vie, la personne qui vous fait rêver? Si je vous demandais cette question-là ce matin, qu'est-ce que vous me répondriez? Bon, j'entends des Jésus ici et là, là. Évidemment, vous allez répondre une personne, oui, mais une personne qui est liée à ce qui vous intéresse, à ce qui vous passionne. Je vous donne un exemple. Moi je te... Pas au niveau manuel, j'ai aucun talent pour la musique, aucun. Je suis vraiment pas un musicien, mais je suis un mélomane. J'aime la musique. Puis moi, un artiste que j'aime énormément, bon, il y en a qui vont dire, « Ah, Miguel, il y a eu une vie tout croche, ce gars-là. » Je vous arrête. Au point de vue artistique, pour vous, de la création, un artiste qui, pour moi, m'étonne, c'est Miles Davis, un trompettiste de jazz. Pour moi, quand je l'écoute, cet homme-là, c'est la définition même de ce qu'est un artiste. Ça ne veut pas dire que je veux que ma vie ressemble à lui, mais c'est quelque chose qui, par sa musique, il y a quelque chose qui se passe, qui m'allume. Dans l'Évangile de Marc, on voit une situation où est-ce que Pierre, l'apôtre Pierre, au chapitre 8, confesse à Jésus-Christ qu'il est le Messie. Puis il dit, c'est toi qui illumines ma vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Puis d'une certaine manière, même si j'irai ailleurs, bien, je sais que je vais être perdant. Fait vers qui d'autre tu veux que j'aille? Tu es celui qui illumine ma vie. Alors là, à un moment donné, dans le même chapitre, Jésus dit aux apôtres, aux disciples, dit, écoutez, un jour, à un moment donné, là, ça s'en vient, là, je vais mourir. Et vous vous souvenez de ce que Pierre fait à ce moment-là? Lui, ça ne correspond pas à son idée de ce que la lumière de Dieu devrait faire dans sa vie. Si tu es ma lumière, tu ne devrais pas mourir. Puis là, on dit dans le texte que Pierre le reprend. Pierre reprend celui qui est supposé illuminer sa vie. Regardez alors ce que dit Jésus au verset 34. Jésus dit au verset 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut être illuminé de la lumière que je suis, si quelqu'un veut suivre le nom que je représente, qu'il renonce à lui-même, d'une certaine manière, qu'il renonce à la propre lumière de sa vie puis celle des autres, puis qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui suivent la propre lumière que je projette. » Ici, le salut nous est présenté comme un nom, une personne qui nous appelle à suivre la lumière qu'elle représente et à ne pas se laisser dominer par d'autres lumières qui existent dans ce monde et qui peuvent potentiellement illuminer notre vie. Un peu comme l'apôtre Pierre ici. Ça ne correspondait pas à son idée et à son idéal que la lumière de sa vie puisse mourir. Donc, il a repris la lumière. C'est comme s'il disait, ma lumière de la propre vie, ça vaut plus que la tienne, Jésus, parce que ta pensée, je ne suis pas sûr qu'elle est correcte, parce que je pense que la mienne est meilleure que la tienne. Où en es-tu personnellement par rapport à cette personne-là qui désire illuminer ta vie? Envers ce nom qui désire éclairer l'espace de ta vie. Peut-être est-ce qu'il y a un tiroir de ta vie que tu voudrais bien céder à cette personne-là, un tiroir qui fait ton affaire. Ça peut être le travail, tu as un problème au travail. Seigneur, illumine le problème que j'ai au travail, illumine le problème que j'ai avec mon ado, illumine le problème que j'ai avec mon père ou ma mère qui ne comprend pas telle affaire que je vis à l'école. Illumine-moi. Mais tel autre tiroir de ma vie, bien, gars, pour l'instant, le gars, illumine-le pas trop. Je sais que ça pourrait peut-être pas correspondre à ce que je pense dans la vie. Est-ce qu'il y a un tiroir dans nos vies qu'on est prêt à laisser illuminer par ce nom-là qui est Jésus, mais en a gardé un autre pour nous? Un peu comme Pierre dans Marc 8. Vous savez ce qui arrive dans un tiroir qu'on refuse d'exposer à la lumière? Bien, il y a toutes sortes de choses qui se ramassent là. De la poussière, de la saleté, des moisissures, même parfois des petites surprises qui se mettent à bouger. Quelque part dans nos vies, il y a tout le temps un tiroir où Dieu, à travers la personne de Jésus, désire éclairer un peu plus de son salut. Et ce que Jean nous invite ici à faire, c'est non seulement exposer ce tiroir-là de nos vies parce que Jésus en est digne, parce que son nom, son identité en est digne, mais que parce que également il se produit quelque chose quand on reçoit la lumière de Dieu, de bien particulier, tout à fait incroyable. Il se passe quelque chose au niveau de l'expérience personnelle. Et ce que Jean dit dans la suite du verset 12, c'est ceci. Recevoir la lumière de Dieu, oui, c'est croire en Jésus, mais c'est également entrer dans une nouvelle famille. Quand on reçoit, qu'on est éclairé de Dieu, qu'on reçoit son salut qui a été manifesté à la croix, Dieu nous fait entrer dans une nouvelle dimension de son existence. Et ce qui est question ici, c'est du résultat que produit le fait de recevoir la lumière de Dieu. Le verset 12 dit ceci, « Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Quand on dit « elle » ici, de quoi qu'on parle? On parle de la lumière. On parle ici de la lumière incarnée, de la parole et de la vie incarnée de Dieu qui est en Jésus. Cette lumière-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on parle de pouvoir ici, on parle d'une capacité de recevoir une nouvelle identité, une identité spirituelle que je ne possédais pas à ma naissance, que je ne possédais pas avant de recevoir la lumière de Dieu. J'étais séparé de Dieu. En recevant la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ, je suis réconcilié par la foi. Ce qui me séparait de Dieu a été aboli, affaissé, parce que Christ a payé le prix de cela pour me mettre dans un lien de paix avec Dieu. Il me donne la possibilité, nous dit le Nouveau Testament, d'être adopté, de commencer une nouvelle forme de vie. Pour les parents qui ont déjà peut-être adopté ou des enfants qui sont adoptés, parlez-leur comment leur vie a changé. À travers leur expérience, comment ça a été difficile l'attente de cet enfant-là qui adopterait et comment ça a été là avant qu'il vienne à la maison et comment, quand il est rendu, ça l'a transformé leur vie. Il y a une nouvelle forme d'existence qui a commencé autant pour les parents que pour l'enfant. Et c'est ce que Dieu fait ici dans nos vies. Pour lui et pour nous, ça nous engage dans une nouvelle forme de vie l'un envers l'autre. Dieu devient mon Père. Et ceux qui croient en lui deviennent mes frères et mes sœurs qui sommes associés spirituellement à lui. Dans l'épître d'un Pierre, au chapitre 1, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, on nous dit ceci, c'est l'apôtre Pierre qui parle et qui dit ceci à ceux qui ont reçu la lumière de Dieu. « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ce que le texte dit ici, c'est que nous sommes, par la foi en Jésus-Christ, régénérés. C'est-à-dire qu'on renaît. Il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous où est-ce qu'on subit une transformation extrême, pas physique, mais spirituelle. Où est-ce que Dieu, par la parole vivante et permanente qui est ici dans 1 Pierre, et remarquez que dans 1 Jean, c'est quoi qui nous fait naître de nouveau? C'est également la parole. C'est le même mot qui est utilisé ici dans Pierre et dans Jean, qui utilise le fait que à travers notre foi en Jésus-Christ, à travers le salut et la lumière qu'on reçoit en lui, on est de nouveau, c'est une nouvelle forme de vie qui commence. Et d'une certaine manière, Dieu ici communique une vie que nous n'avions pas avant et il nous la donne et il est le donateur d'une vie spirituelle qu'il est le seul à donner. C'est comme ça que l'on est de nouveau. Par la foi, dans le fait que Dieu peut nous communiquer une vie spirituelle que nous n'avions pas avant et qui nous lie à la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour être réconciliés avec lui. Lorsque vous êtes apparus dans le monde, vous avez tous reçu de la part de vos parents quelque chose. Vous avez reçu un nom de famille. Ce nom, vous ne l'avez pas choisi. Vous ne l'avez pas acheté. Vous ne l'avez pas non plus mérité. Vous l'avez tout simplement reçu de la part de vos parents et ils vous ont inclus dans leur famille parce que maintenant vous possédez un nom qui vous identifie à eux, vos parents. Eh bien, il y en est de même de la part de Dieu. En recevant la lumière qu'incarne Jésus ici, Dieu met son empreinte sur vous en vous faisant entrer dans son famille. Il vous accorde son salut. Il met la vie qu'il possède en son Fils dans notre être. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais il nous communique quelque chose qui l'identifie. C'est comme s'il nous intégrait dans sa famille en mettant son empreinte spirituelle sur nous. Il nous fait irrésistiblement, je vais y arriver, entrer dans sa famille. Il met en nous un ADN spirituel unique qui nous fait expérimenter que c'est quoi que ça veut dire lui appartenir? C'est quoi que ça veut dire qu'il prend soin de nous, même si je fais des gaffes? C'est quoi ça veut dire qu'il est bon et généreux avec moi, même si je ne le mérite pas? Il nous fait intégrer dans sa famille par la nouvelle naissance. Et c'est mon troisième point ce matin, c'est que recevoir la lumière de Dieu, c'est naître de nouveau. Dieu ne me fait pas entrer dans sa famille. Je ne deviens pas un enfant de Dieu par un coup de baguette magique. Quand on entre dans une famille, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est ajouté par le principe qu'on appelle la naissance. Voilà comment Jésus nous fait expérimenter, ou Dieu, par Jésus, nous fait expérimenter c'est quoi le salut? C'est quoi recevoir sa lumière? C'est naître de nouveau. Recevoir une vie fantastique que je n'avais pas auparavant, mais qui maintenant fait que d'un état d'étranger que j'étais avec Dieu et séparé, je suis maintenant près de lui, en communion avec lui, à cause de ce que son Fils a accompli à la croix pour me donner une nouvelle nature. Dieu, à travers la vie spirituelle qu'il me donne sa nature à lui. Il me donne sa vie à lui. Il me donne la sienne. Est-ce que vous êtes conscient de ce trésor-là que nous possédons? Regardez ce que disent les versets 12 et 13, la fin du verset 12 et le début du verset 13, toujours dans Jean 1. En parlant de ceux qui ont reçu la lumière et qui sont enfants de Dieu, le texte nous dit « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu possède un pouvoir incroyable. Si nous avons la capacité de devenir des enfants de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai le contrôle là-dessus par le bien que je peux faire autour de moi ou par les lectures que je peux faire. Si j'ai cette capacité-là, c'est parce que Dieu est souverain à travers ce pouvoir-là qu'il me donne. C'est lui qui en contrôle les guides. Il possède le contrôle de me donner une vie spirituelle, une vie que les êtres humains ne disposent pas à la naissance. Peu importe mon désir, ma volonté, ma force de caractère, peu importe l'envie que j'ai que d'être un enfant de Dieu, quelque part, naître de nouveau, ce n'est pas une affaire de biologie. Ce n'est pas une affaire de ténacité. Ce n'est même pas une affaire de force de caractère ou de bonté ou de générosité. Être un enfant de Dieu, naître de nouveau, c'est un acte qui s'accepte par la foi et la repentance. Voilà comment le salut nous est présenté à travers le témoignage de Jean. C'est en croyant dans le nom de cette lumière et en te repentant de l'ancienne famille dont tu faisais partie, puis maintenant en étant intégré dans une nouvelle, en proclamant ma louange de Dieu parce que j'ai fait cela pour toi, c'est comme ça que tu peux naître de nouveau, par la foi et la repentance. C'est à ce moment-là que Dieu dépose en nous la vie parfaite et précieuse de son Fils pour que je sois ancré dans un nouveau système de relations familiales, celui dont Dieu est le Père, le Maître et le Souverain. Vous savez, lorsqu'on parle de la naissance ou de nouvelle naissance, il n'est pas rare qu'on parle aussi parfois du bagage génétique que les parents cèdent à leurs enfants. Que ce soit dans nos personnalités, notre apparence, nos aptitudes, notre caractère, on lègue à nos enfants quelque chose qui fait partie de nous. Vous avez tous déjà remarqué ça. Hein? Il y a un proverbe, il y a un dicton populaire au Québec qui dit « Lorsqu'un enfant ressemble à ses parents », on sait bien, lui, il ne retient pas du laitier. Ou bien, il ne retient pas du voisin, dans des termes un peu plus actuels. Parce qu'aujourd'hui, un laitier, disons que c'est différent un peu comme concept, là, mais dans le sens qu'un enfant qui ressemble à ses parents, bien, il naît avec quelque chose de ses parents. Et ses parents même lui lèguent quelque chose. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne le fait de naître de nouveau. Dieu nous accorde par la foi, incarnée en Jésus, une vie spirituelle qui est en accord avec la sienne. Dieu ne nous cède pas un ADN génétique, mais il nous cède un ADN spirituel. Un salut qui nous appelle irrésistiblement à quoi? Si Dieu me cède un code spirituel, puis que le code génétique fait ressembler à mes parents, si Dieu me donne un code spirituel, s'il me donne sa vie, à qui suis-je supposé ressembler? Ben à lui, à mon Père. Donc le salut, c'est plus qu'une prière sur le coin d'une table. C'est encore plus qu'un geste de foi. C'est un geste de foi qui m'apprend à lui ressembler. Pas parce que je fais les bonnes choses au bon moment, mais parce que lui-même m'intègre dans une nouvelle forme de vie où est-ce que maintenant je suis une nouvelle créature, comme on a vu la semaine passée, qui fait que je ressemble à mon nouveau Père céleste. En nous faisant naître de nouveau, Dieu laisse des marques dans notre vie. Il laisse des marques par son esprit de sainteté, des marques par son esprit de justice. Il nous laisse des marques de l'esprit que Jésus même possédait, parce qu'en naissant de nouveau, c'est cet esprit-là que Jésus possédait, que Dieu me cède, que Dieu me lègue, à laquelle il me fait entrer dans sa famille. C'est ça, expérimenter le salut. C'est apprendre par la foi à marcher selon un nouveau modèle familial dans lequel je fais partie. Et ce n'est pas en pratiquant le bien que je peux naître de nouveau. Mais c'est en naissant de nouveau que je peux pratiquer le bien, qui me fait ressembler à celui qui pratique le bien suprême, Dieu. Cela ne dépend pas de nous, mais de notre foi en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Un acte de réconciliation qui nous fait passer d'un état de séparation à un état de paix avec Dieu. Donc, si vous avez été éclairé, et que vous avez reçu la lumière de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, que vous avez reçu ce salut-là, la question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Comment les gens autour de vous voient-ils ce bagage spirituel que Dieu vous a donné? Est-ce qu'ils en sont conscients que vous êtes des nouvelles créatures? Est-ce qu'ils en sont les témoins? Est-ce qu'ils peuvent dire à ce moment-là, cette personne-là est pas comme tout le monde. Cette personne-là a quelque chose que la majorité des êtres humains n'a pas. Elle communique quelque chose d'autre que l'amertume, la haine, la vengeance ou l'égoïsme. elle communique quelque chose de beaucoup plus grand. Est-ce que les gens autour de vous voient cette vie-là que vous avez reçue de la part de Christ et de Dieu en naissant de nouveau? Dans ma famille, trois de mes enfants ont reçu ce qu'on appelle un nom de totem. Vous savez c'est quoi un nom de totem? Je vais vous donner un exemple. Un nom de totem, c'est un nom qui vous identifie à un animal, qui vous ressemble dans votre caractère, puis également un attribut que la vie fait que vous avez reçu, soit de la part de vos parents ou qui fait partie de votre personnalité. Par exemple, moi, trois de mes enfants s'appellent Ours Intense, Papillon Parleur, puis Belette Espiègle. Là, regardez, là, essayez pas de trouver c'est lequel et lequel, là, puis surtout, n'allez pas commencer à les appeler comme ça après la rencontre, s'il vous plaît. Non, là, vous allez juste les gêner. Mais ces noms-là, ils les ont reçus en vacances parce que ça les représente. Ça représente qui ils sont, ça représente leur caractère, ça représente un côté lumineux de leur caractère, mais un côté qui a besoin parfois d'être illuminé. Maintenant, imaginez que Dieu vous accorde lui-même un autre totem. Qu'est-ce que ce serait? Il dit, je t'ai donné la vie, mon cher, là, puis en te donnant cette vie spirituelle-là par la personne de Jésus-Christ, bien voici à quoi tu devrais ressembler, puis je vais te donner un autre totem. Imaginez le dimanche matin, là, on est à la pop, puis là, on salue les uns les autres, puis on se dit, bonjour, castor courageux, comment ça va ce matin? Bonjour, fourmi vaillante, bonjour, hibou généreux, ça va bien? Oui, super, t'as passé une bonne semaine, excellent. Hi, ça serait mêlant pas à peu près. Mais imaginez que ce nom-là, ce soit chaton dormeur. Imaginez que ce nom-là, ce soit perroquet bavard. Oh, ça, c'est moins... Ça représente moins Dieu, ça, il me semble. Ou que ce soit encore « Bonjour, canard enragé » ou « canard amer ». Qu'est-ce que votre vie représente par le code spirituel que vous avez reçu de la part de Dieu? Quand les gens vous voient autour d'eux, là, qu'est-ce qu'ils retiennent de ce que Dieu vous a vu communiquer? Vous avez reçu la vie même de Dieu. C'est lui qui vous a fait naître. Comment est-ce que tu nourris cette vie-là dans la prière? Comment est-ce que tu vis ça à travers la méditation de la parole, dans tes relations avec les gens du petit groupe dont tu fais partie? Comment tu nourris cette vie-là dans la prière? Comment est-ce que tu l'entretiens, cette vie-là? Est-ce que tu laisses pousser des mauvaises herbes dessus? Peut-être qu'il y a un besoin de ménage à faire sur cette vie-là. J'ai une petite haie chez moi qui demande beaucoup d'ouvrage. Encore hier matin, j'étais avec ma petite fille, j'étais en train de tailler la haie, puis elle me disait, « Ah, papa, c'est de l'ouvrage, hein? On est-tu vraiment obligé de faire ça? » Ben oui, ma fille, parce qu'à un moment donné, si on n'entretient pas la haie, ben c'est elle qui va nous entretenir, comprends-tu? Elle va empiéter sur le trottoir, les gens ne pourront plus passer, et là, elle va faire du mal autour d'elle parce qu'elle peut piquer les gens. Comprends-tu pourquoi il faut entretenir cette haie-là? Oui, pas, je comprends. Et notre vie a besoin d'entretien. La vie que Dieu a mis en nous, il désire l'entretenir. Dieu nous a légué une vie fantastique et merveilleuse en nous offrant son salut. C'est ce dont Jean témoigne ici. C'est ce qu'il a expérimenté. Et c'est ce que Dieu désire que nous expérimentions. Une vie formidable où est-ce qu'être près de lui est d'un trésor inestimable. Dieu ne veut pas qu'on passe à côté du trésor qu'il tient en attente pour nous, en nous cédant la vie de son Fils. Une vie merveilleuse où est-ce que Jésus-Christ est appelé et où il fait une lumière incroyable sur l'espace de nos vies. Et Dieu est tellement grand, tellement lumineux, que ma vie ne peut être qu'un reflet de la lumière dont il m'éclaire. Mais si c'est autre chose qui m'éclaire, bien, il en reste moins pour la lumière que Jésus-Christ veut éclairer ma vie. S'il y a un combat ce matin, un domaine où il y a une lumière dans ta vie qui prend plus d'espace que la lumière incarnée de Dieu qui est Jésus-Christ, quel est ce domaine? Quel est ce point de caractère, cette attitude, cette pensée avec laquelle tu combats à chaque matin en te levant, en te couchant le soir, et qui fait que parfois tu ne te sens pas à la hauteur du fait d'être éclairé de Dieu, même si tu l'as reçu? Eh bien, ce qui est merveilleux à travers l'Évangile, c'est que même si Dieu est digne d'éclairer toute notre vie, à la croix, il nous dit que ce n'est pas par les actes que je veux seulement t'illuminer. Ce que je veux illuminer en premier lieu, ce n'est pas nécessairement ce que tu fais. Ce que je veux illuminer en premier lieu, c'est ta foi. C'est ton cœur, c'est ta vie. Ensuite, les gens, les actes vont venir. Mais en premier lieu, ce que je vais éliminer, c'est le fait que oui, parfois, je peux comprendre que tu n'es pas à la hauteur de la situation. Tu n'es pas aussi performant que tu voudrais l'être, que ma lumière t'appelle à l'être. Et c'est tout à fait normal, parce que cette performance-là, ce n'est pas toi à l'accomplir. C'est moi qui l'ai accompli à la croix. C'est moi qui, à la croix, a performé par ma lumière pour éclairer ta vie. C'est un geste de grâce et d'absolue miséricorde que Dieu a pour nous. Et ce qu'il veut ce matin, c'est témoigner de cela dans nos vies et nous laisser une lumière que rien ne peut assombrir. Maintenant, c'est à nous à prendre la décision. Est-ce que je veux croire ou non? Est-ce que je veux recevoir ou non? Cette vie-là que Dieu a pour nous. Est-ce que je veux me contenter d'être un perroquet bavard, un chaton dormeur ou un canard enragé? Ou Dieu, par sa lumière, veut faire de moi une fourmi vaillante, un hibou généreux? Soyons assez humbles pour reconnaître que le salut de l'humanité dépend d'un Dieu souverain qui veut nous transformer premièrement par la foi. Et par le nom de son Fils, Jésus-Christ. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, comment ne pas te louer ce matin et être à genoux devant toi, incliner nos âmes devant toi pour le salut absolument prodigieux que tu as toi-même accompli pour nous. À la croix, tu as payé le prix de ce qui nous sépare de toi parce qu'on était précieux pour toi. Tu nous as créés de manière précieuse et tu veux faire la paix avec nous, non pas parce qu'on est des êtres admirables ou simplement des êtres qui sont meilleurs que les autres, mais c'est toi, Seigneur, qui nous vois à travers la personne de ton Fils comme des gens qui sont dignes d'être sauvés. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette grâce que tu nous accordes en toi d'être réconciliés avec toi. Merci que ce témoignage, nous l'expérimentons au quotidien, que ce message a une valeur pratique sur le terrain, et qu'elle ne me laisse pas simplement avec quelque chose d'intellectuel à mieux comprendre, mais qu'elle devient quelque chose de pratique à vivre. En famille, dans laquelle tu nous as fait entrer. Merci Seigneur pour cette nouvelle naissance qui nous donne aujourd'hui l'espoir de voir ta lumière au bout du tunnel lorsque même les choses sont sombres. Tu n'es pas un Père, Seigneur, ordinaire. Tu es un Père qui s'est attaché à nous, qui nous a choisis, qui nous a élus avant la fondation du monde. Tu prends soin de ta famille. Apprends-nous maintenant à vivre cette grâce aujourd'hui pour mieux refléter la lumière que tu es. Que nos cœurs soient constamment tournés vers la personne de Jésus et que nous puissions laisser la croix et la résurrection envahir les tiroirs de nos vies. Nous te les cédons, Seigneur, afin que ton salut illumine notre ville, illumine notre pays, illumine notre monde. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as accompli pour nous et la paix que tu nous as donnée.